à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Guy-Alain de Saint-Enac. Monsieur de Saint-Enac, bonjour.
Bonjour.
Monsieur de Saint-Enac, vous avez 71 ans d'abord, j'ai l'habitude de donner l'âge des gens, et vous avez eu une carrière bien pleine d'avocat, avocat d'affaires, après avoir fait de brillantes études, notamment Sciences Po Paris. Et c'est peut-être ça qui vous y a amené. Vous êtes consul. Vous avez été consul,
oui.
Des Philippines et consul du Pakistan. Mmh. C'est bien ça?
Oui.
Et puis vous habitez dans le quartier de Saint-Sernin, donc vous êtes paroissien.
Rue des Lois, exactement.
Rue des Lois, paroissien de la basilique Saint-Sernin, où vous êtes extrêmement actif, où vous avez été avec votre épouse extrêmement actif, puisque vous êtes trésorier, je crois, des deux associations paroissiales.
Oui.
On en dira un petit mot.
Oui.
Et puis, vous êtes membre depuis quelque temps d'une instance qui s'appelle le Pôle provincial de prévention et de lutte contre les abus. Et bien évidemment, c'est un sujet qui préoccupe, je pense, toute l'Église et tous les gens qui ont à cœur que notre Église se porte bien. Donc, on reviendra, si vous en êtes d'accord, sur ces questions-là à travers votre expérience. Mais je voudrais qu'on démarre un peu par ce que peut-être les gens savent moins de vous, c'est-à-dire ce rôle de consul des Philippines et du Pakistan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors bon, c'est quand même très particulier. C'est un travail de diplomate, mais de diplomate honoraire, c'est-à-dire donc de gens qui font ça gratuitement et pour le besoin des pays. Bon, ce que je dirais plutôt, c'est deux ou trois événements que j'ai vécu, entre autres, au niveau du consulat des Philippines. Parce que les Philippines sont un pays catholique.
Catholique, oui.
Enfin, tout au moins, principalement catholique.
Ce qui n'est évidemment pas le cas du tout du Pakistan.
Non, le Pakistan est un pays musulman. Effectivement, même s'il y a une communauté catholique non négligeable, enfin, au Pakistan, mais c'est un problème beaucoup plus délicat, puis c'est un sujet, c'est un autre pays. Mais je raconte juste deux événements que j'ai vécu avec le consulat des Philippines. Le premier événement, c'était que la présidente des Philippines est venue en France, je crois que c'était en 2009, c'était Madame Arroyo, qui était donc démocrate chrétien, qui était présidente des Philippines démocrate chrétien, et elle a voulu aller à la grotte de Lourdes. Et donc, avec l'ambassade, on a organisé une visite de la présidente à la grotte de Lourdes. C'était quand même assez exceptionnel.
C'était au mois de
novembre. Et donc, a ouvert la
grotte était fermée.
Absolument.
Oui.
On a ouvert la grotte pour elle. Et je me souviens de ce moment un peu extraordinaire parce que vous aviez, les jeunes femmes attachées d'ambassade qui chantaient devant la grotte de Lourdes et la présidente des Philippines qui priait la Vierge devant la grotte de Lourdes. C'était quand même un moment un peu extraordinaire.
Ah, mais ça, c'est, on est toujours un peu étonné en France parce qu'on est un pays quand même qui affiche sa laïcité. Mais il y a pas mal de chefs d'État qui, finalement, quand ils viennent en France, viennent soit à Lourdes, soit... moi, je me souviens d'avoir vu la visite du président mexicain aux Jacobins pour voir le tombeau de saint Thomas d'Aquin. Et d'ailleurs, c'était curieux parce qu'il croyait que saint Thomas était à Saint-Sernin. Et donc, il avait demandé à visiter Saint-Sernin. Et quand il est arrivé à Saint-Sernin, il a dit « Mais où est le tombeau de saint Thomas d'Aquin ?» Donc, il a fallu qu'on le mette et il est venu se recueillir devant.
Mais ceci étant, si vous voulez, mon épouse Véronique, qui était professeure au lycée Fermat, avait été parmi les réceptionnaires de la reine d'Angleterre qui était venue aux Jacobins,
ouais.
et qui avait, entre autres choses, a été accueilli par les gens du lycée Fermat. Donc c'était là aussi un souvenir assez extraordinaire. Ouais.
Bien, tous les pays ne sont pas complètement laïcs. Et on peut s'en réjouir. Quand
juste
même.
Pour terminer sur le consulat des Philippines, j'ai fait autre chose d'assez tout aussi extraordinaire. Il y avait une ambassadrice qui était aussi quelqu'un de très catholique, qui s'appelait Rora Tolentino, et avec qui nous avions des relations très 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 proches, et qui a voulu aller faire le pèlerinage donc de Saint-Jacques de Compostelle.
J'imagine.
Oui, on est parti de la frontière et on est arrivé jusqu'à
Saint-Jacques.
Absolument.
Ah oui, quand même.
Donc en je ne sais plus combien d'étapes parce que j'ai pas regardé l'histoire, mais nous avons fait ça donc avec nous n'avions pas nos sacs à dos puisque c'était effectivement les voitures de l'ambassade qui nous amenaient étape par étape vers Saint-Jacques.
Je pense que la même chose ne vous arrivera pas avec le Pakistan, quand même.
Ah non, bien sûr que non. Non, c'est autre chose. Mais ce sont des pays très différents.
Oui.
Voilà. Donc bien. Ça, c'était pour raconter des petites anecdotes rigolotes sur ce genre de travail. Après, le consulat, c'est un autre problème.
Oui. Guylaine Saint-Tenac, je voudrais aussi que vous nous parliez un peu de l'activité très variée et très importante que vous avez eue avec votre épouse Véronique, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais qui est avec nous par la pensée aujourd'hui en particulier, parce qu'elle s'est beaucoup impliquée dans les associations paroissiales de Saint-Sernin. Est-ce que vous pouvez me dire un mot de ce que vous faites ?
Bien sûr. Donc Saint-Sernin, c'est une paroisse qui a deux pôles un petit peu différents. Il y a un pôle spirituel. Et puis, il y a un pôle culturel. Et donc, le pôle culturel est fait principalement autour d'une association, qui est l'association de la Basilique Saint-Sernin. Et dans cette association, vous avez plusieurs types d'activités, dont une activité des visites spirituelles, qui avait été créée à l'époque par la famille Auban. Et effectivement, nous avons beaucoup participé, et Véronique et moi, à toutes ces visites spirituelles. Ça continue toujours. Hein. Il y a toujours une activité visite spirituelle à Saint-Sernin. Et entre autres choses, mon épouse avait fait, entre autres, visiter Saint-Sernin à la reine de Suède, ce qui là aussi reste quand même dans les mémoires. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, la visite spirituelle avait pour but à la fois de faire visiter Saint-Sernin du point de vue de tout ce qu'on peut y voir, mais en même temps d'accentuer la visite sur l'aspect spirituel.
Avec le tour des corps saints.
Voilà, tout un aspect d'explication de tout ce qui est donc caractéristique à Saint-Sernin de la partie spirituelle de plusieurs époques, puisque Saint-Sernin est un bâtiment qui est très ancien, mais qui a aussi été animé à des époques différentes. Voilà.
Bon, donc ça, c'est une étape majeure, évidemment, du pèlerinage de Saint-Jacques, avec notamment toutes les reliques qui ont été maintenant remises dans leur niche il y a quelques années, quelques dizaines d'années. J'ai toujours été frappé, moi, par le fait que c'est une paroisse avec une très grande basilique, et qu'en fait, il y a relativement peu de paroissiens parce que les quartiers environnants sont finalement peu habités. Il y a l'université qui a un espace considérable, il y a trois lycées qui sont quasiment mitoyens, Saint-Sernin, Ozène, et puis le lycée Sainte-Marie-des-Champs. Sainte-Marie-de-Nevers.
Sainte-Marie-de-Nevers.
Il y a la Banque de France, il y a les impôts, il y a tout un tas d'administrations. Vous êtes nombreux là, comme paroissiens. C'est surtout des étudiants qui fréquentent.
Alors, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a, quand même un ensemble de paroissiens qui se connaissent bien, qui ne sont pas forcément extrêmement nombreux, mais qui se connaissent bien, et qui, entre autres, donc à Saint-Sernin, nous avons donc ces activités culturelles dont je vous parlais, mais également des conférences qui sont organisées, auquel donc c'est ce petit groupe de paroissiens assiste assez régulièrement.
Qui sont donc ouvertes à tout le monde là.
Qui sont ouvertes à tout le monde, mais finalement on se retrouve avec les uns et les enfin on se connaît les uns et les autres. Conférences qui sont organisées par le Philippe Foureau, que Radio Présence connaît bien,
qu'on connaît bien aussi.
Et qui chaque semaine anime une étude de textes spirituels, oui. Et puis tous les mois organise des conférences sur les grandes figures de l'Église.
Je sais que ces conférences sont tout à fait passionnantes et on ne saurait trop encourager nos auditeurs qui habitent dans Toulouse à y participer. Est-ce qu'elles ont lieu où précisément?
Alors attendez, il y a deux types de conférences. Il y a les conférences sur les grandes figures de l'Église qui ont lieu dans la salle paroissiale et qui sont tous les mois. Il se trouve que j'ai fait une conférence récemment sur Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales et la correspondance entre Jeanne de Chantal et François de Sales. Mais Philippe Faureau fait régulièrement des conférences. Il en a fait une très récemment sur Saint Philippe Néri et il doit en faire une très prochainement sur Sainte Mère Teresa. Voilà. Donc ça, c'est une des parties de conférence. Et après, avec le père Bogdan, on a mis en place des conférences dans la basilique même, avec des sujets très très divers, mais essentiellement, très divers, puisque la dernière conférence qui a eu lieu, c'était le sentiment religieux dans le monde médiéval. Et puis il y a eu une conférence sur le sentiment religieux dans la préhistoire.
Ah oui.
Ça, c'est les sujets. On aura la prochaine fois Chateaubriand, écrivain religieux. Donc, tout ça, ce sont des professeurs extérieurs.
Le génie du christianisme.
Des professeurs de l'université Jean Jaurès, mais d'autres aussi qui viennent exprès pour...
Je dis ça pour nos auditeurs, c'est dans la basilique elle-même.
Oui.
Et c'est toujours à la même heure, le même jour, j'imagine.
C'est à 18h30. Il y a une liste de jours.
Oui. Donc, où est-ce qu'on trouve les renseignements, concrètement?
Alors, concrètement, on peut les trouver sur le site de la basilique, de toute façon.
D'accord. Voilà. Mais c'est important de le dire pour que les gens qui seraient intéressés puissent...
Oui, alors là, vous avez des étudiants, par exemple, qui viennent. Par exemple, la dernière conférence, qui était quand même sur un sujet absolument extraordinaire, puisque c'était le sentiment religieux durant la préhistoire, il y avait beaucoup d'étudiants... de monsieur Bon là qui était là et qui ont assisté aussi à cette conférence bien sûr.
Voilà. Et il y a aussi, je le signale pour nos auditeurs, depuis quelque temps tous les dimanches à 17h45 je crois, des vêpres auxquelles on peut participer qui sont ouvertes à tous
et qui sont retransmises je crois sur Radio Présence.
Et qui sont retransmises sur notre radio, absolument. Donc voilà, c'est une paroisse très active finalement.
Avec beaucoup de diversité, et puis après vous avez une partie spirituelle. Mon épouse entre autres était chargée de la préparation à la confirmation. Il y a aussi des gens qui font la préparation au baptême, d'autres qui font bien évidemment la préparation au mariage.
Oui, mais enfin,
toutes les choses qui sont assez classiques.
Assez classiques dans les paroisses.
De toutes ces...
Alors, il faut dire aussi que la paroisse Saint-Sernin regroupe aussi l'église du Thor.
Oui, qui actuellement est fermée en travaux.
Qui était fermée, mais qui a vocation à réouvrir, parce qu'il y a...
Dans trois ans.
Elle est toujours affectée au culte, en tout cas.
Oui, absolument. Voilà. Elle réouvrira.
Il y a d'autres...
Il y a la paroisse Saint-Hilaire.
Et il y a la paroisse Saint-Hilaire,
voilà,
c'est ça.
Qui est quand même un peu... qui est une paroisse vraiment autonome, avec ses paroissiens.
Mais qui est rattachée, donc...
Qui est le curé de Saint-Sernin, est aussi le curé...
Le père Bogdan, donc...
De Saint-Hilaire, absolument.
Bien, Guylaine Saint-Tenac, je voudrais aussi qu'on parle d'un sujet un peu plus délicat, qui est celui des affaires qui secouent l'Église à travers tous ces scandales dont la presse, évidemment, se fait l'écho parfois avec délectation et sans modération, mais qui a ouvert, au fond, tout un débat à l'intérieur de l'Église, et l'Église, évidemment, qui a parfois eu cultivé un peu, peut-être un peu trop, le secret, se retrouve là dans un système où la communication qu'elle avait l'habitude de faire de façon très discrète s'est retrouvée en défaut. Et donc, ce qui n'a sans doute pas été une très bonne chose vis-à-vis de l'extérieur. Et là, depuis quelque temps, on a le sentiment que l'Église reprend à bras-le-corps ces questions de communication et ces questions. Donc je voudrais vous poser deux questions. D'abord, je sais que vous êtes membre d'un groupe de travail qui s'appelle le Pôle provincial de prévention et de lutte contre les abus. Donc je voudrais que vous nous expliquiez ce dont il s'agit, qu'est-ce que vous faites là-dedans, quel est l'objectif. Et puis deuxième chose, qu'on parle, puisque vous êtes avocat, de cette notion de discipline ou de justice, entre guillemets, qu'a l'Église, qui a l'habitude d'avoir son propre système de sanctions vis-à-vis des gens qui ont des comportements qui ne sont pas conformes aux attentes de l'Église. Et en côté de ça, il y a la justice civile, donc la justice de l'État français. Quelles sont les relations? On a parfois le sentiment que c'est un peu un système à deux vitesses, que l'Église a peut-être de temps en temps caché les choses pour essayer de les régler de son côté. Donc ça sera ma deuxième question. Mais revenons au pôle.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a hier et il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église a pris conscience de façon très, très, très affirmée de ces problèmes d'abus et de prévention des abus et a mis en place et est en train de mettre en place dans chaque province des pôles qui sont responsables de cette prévention et de cette lutte contre les abus. Et à Toulouse, nous avons un décret qui a nommé un pôle avec pour mission d'aider à la mise en place dans les diocèses de la province de procédures adaptées pour l'accueil et l'accompagnement des victimes, mais sur la répression des abus, leur signalement, la prévention, la formation et l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de l'Église à tous les niveaux.
Voilà, c'est le père Darode, je crois.
Voilà, c'est le père Xavier Darode, le monseigneur Darode, qui est donc en charge de ce pôle. Et dans le cadre de ce pôle, il m'a demandé de m'occuper de la formation. Alors, il faut savoir que le diocèse de Paris a mis en place une e-formation, une formation par Internet pour toutes les personnes qui sont effectivement de près ou de loin en charge des jeunes et des adolescents pour qu'ils aient une bonne connaissance et les bons réflexes par rapport donc à tous les problèmes que peut rencontrer un adolescent, mais également tous les abus éventuels qu'on peut déceler au niveau donc de l'encadrement, de l'accompagnement et de l'encadrement des adolescents.
Mais ce pôle donc a un rôle de formation dont vous vous occupez, mais c'est pas un pôle disciplinaire.
Alors c'est pas un pôle disciplinaire. Ce pôle a quand même toute une partie dont je ne m'occupe pas et qui est donc celui de l'accompagnement, l'accueil et l'accompagnement des victimes. Et donc avec des gens qui écoutent, qui prennent en charge les victimes.
Les victimes présentes ou passées?
Alors, oui, les victimes présentes ou passées.
Parce que souvent, dans ce qui est remonté dans un certain nombre de choses, on se rend compte qu'il y a, il y a des événements qui sont passés il y a 30 ans parfois.
C'est vrai, et absolument.
Donc comment on fait pour prendre en compte des gens qui maintenant sont...
Alors, actuellement, enfin, de ce que je vois et de ce que j'entends, la doctrine maintenant est très claire. Il y a une justice civile, et c'est à la justice civile à prendre en charge tout problème qui pourrait se poser à ce niveau-là, y compris des problèmes anciens dont on pourrait avoir connaissance et qui doivent être signalés. Et ce sont effectivement les magistrats qui doivent dire d'abord s'il y a, par exemple, prescription.
Et oui, la prescription, c'est 30 ans.
Attendez, la prescription, elle est complexe à mettre en place. Je ne peux pas vous en donner
les... Je pensais qu'il y avait une prescription systématique à 30 ans. Si les gens n'ont pas porté plainte dans ce délai-là,
on ne peut pas le savoir. Par exemple, il peut y avoir des plaintes qui ont été portées. Il faut que, si vous voulez...
Chaque dossier nécessite une investigation.
Et chaque dossier, c'est la justice civile qui peut nous dire s'il y a ou s'il n'y a pas prévention. Nous ne sommes pas compétents.
Prescription.
Prescription, pardon. Ouais. Nous ne sommes pas... Enfin, bien sûr que l'avocat va, en tant qu'avocat, défendeur, par exemple,
de la victime
ou du prédateur, et faire valoir les règles de droit. Mais à la sortie, c'est quand même la justice qui doit poser les règles claires sur ce qui en est ou ce qui en est pas d'un délit ou même d'un crime. Voilà.
Et prononcer des condamnations. Et
prononcer des sanctions adéquates. Après, si effectivement des délits ou des crimes très anciens sont prescrits, la justice civile n'est plus compétente. Reste là le problème de savoir comment, entre autres, on traite ces délits ou ces crimes à l'intérieur de l'Église et comment on accompagne les victimes qui dénoncent. Mais là, je ne suis plus dans ma compétence.
Oui, non, mais c'est la compétence donc de CEPOL aussi. Mais vous êtes là-dedans, absolument. Votre mission spécifique, Guylaine Sannac, c'est la formation. Et donc la formation de l'encadrement, c'est-à-dire principalement des prêtres.
Et principalement, si vous voulez, ce que je dois faire, il y a donc cette e-formation, entre guillemets, ouais, qui a été mise en place par le
diocèse de Paris.
Le diocèse de Paris, et on doit l'adapter au pôle provincial et la mettre en place pour toutes les personnes qui sont susceptibles de la suivre.
La province fait 8. Il y a 8 évêchés, je crois.
Il y a 8 diocèses.
8 diocèses.
Voilà.
Donc, ce pôle a autorité sur les 8 diocèses de la province.
Absolument. Et dans chaque diocèse, vous avez un responsable de ce pôle qui, donc, va travailler ensemble pour voir quelles sont les personnes qui sont éventuellement susceptibles de suivre cette formation, comment l'adapter, comment...
Ça a démarré déjà ?
Non, c'est en cours.
C'est en cours. Les formations n'ont pas commencé.
Il y a eu une formation générale qui a été mise en place en janvier sur cette problématique des abus, avec intervention de psychiatres.
À Toulouse,
absolument.
Qui a eu beaucoup de succès, m'attendez.
Qui a eu beaucoup de succès et qui n'a pas pu...
Accueillir tout le monde,
ouais, absolument. Mais derrière, on est en train justement de faire ça, puisqu'on est en train d'adapter le travail qui a été fait dans le diocèse de Paris au contexte local et à l'ensemble de ces diocèses. Mmh. Et en même temps, ce qu'on va faire également, c'est de mettre en place des formations en présentiel, c'est-à-dire de réunir des gens et de leur expliquer également qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'abus, quand est-ce qu'on doit aller voir le procureur, qui doit le faire, comment ça se passe, etc. Et très souvent, en plus, se mettent en place des accords entre la justice et donc ce pôle sur la prévention des abus ou la façon dont ces abus vont être traités.
Donc il y a quand même toute une infrastructure. Vous êtes combien dans ce pôle, dans le groupe qui travaille dans le pôle, non ?
Alors,
sous la responsabilité, je rappelle, de Mgr Darraude.
Alors là, je ne peux pas vous donner une réponse très précise parce que c'est en train de se mettre en place. Donc j'attends d'avoir le nombre de les personnes dans
chaque diocèse. Enfin, il y a toute une équipe.
Oui, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place.
Et qui ne sont pas que des...
Ce sont essentiellement des laïcs.
Ce sont des laïcs, oui.
Ce sont essentiellement des laïcs qui travaillent donc dans ce pôle. Et donc, ceci étant, c'est pour quand même bien démontrer que l'Église a bien pris en charge ces problèmes et qu'elle a une politique très active par rapport à cette problématique.
Et alors, le sentiment qu'ont certaines personnes, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est que souvent l'Église s'est dit « je vais traiter le problème toute seule » et n'a pas, alors qu'elle aurait pu ou dû saisir la justice civile, ne l'a pas fait. Est-ce que c'est votre sentiment ? C'est ce qu'on entend souvent ici.
Alors je pense malheureusement que ça a été un peu le cas il y a encore quelques années. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que ce ne sera plus le cas ou que ça ne devrait plus être le cas. En tout cas, c'est ce en quoi on... Ex... C'est ce en quoi on... Enfin, c'est oui. un des des éléments principaux de cette formation. C'est de bien dire, attention, ce n'est pas à vous de prendre les choses en charge, oui. Etc., etc.
Même si, évidemment, il y a un pouvoir disciplinaire à l'intérieur même de l'Église, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais ensuite, s'il y a effectivement des choses qui relèvent, qui sont des délits, de la justice... Et donc, il y a un devoir d'alerte.
De toute façon, c'est une obligation juridique.
Oui, mais bon, encore faut-il avoir connaissance d'eux et ensuite alerter le procureur.
Oui.
Donc là, il y a des instances qui se sont mises en place.
Oui, il y a une démarche qui est faite, qui se met en place pour effectivement alerter le procureur. Parce que là aussi, si vous voulez déterminer... Quel est l'abus, quel est le délit, etc. C'est toujours très délicat. Hein.
Mais on peut aussi pousser les victimes à porter plainte.
On peut le faire.
Parce qu'il faut qu'il y ait une plainte pour que la justice soit saisie.
Non, le procureur peut ouvrir une enquête sur...
Même s'il n'y a pas eu de plainte sur un signalement.
Sur un signalement, exactement.
Bien, malheureusement, Guylaine Saint-Onac, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci surtout au nom de l'Église et des gens que je représente un peu ici d'accepter de donner de votre temps et de vos compétences dans ces instances. Bien sûr, dans votre paroisse, beaucoup de gens le font, mais dans des instances qui ont une acuité particulière aujourd'hui, compte tenu de toutes ces affaires qui ont beaucoup secoué notre Église. Merci à vous.